introduction. Merci Clément pour cette prière au début d'un temps de louange et de méditation. Et merci à vous pour cet accueil parmi vous. Je me sens parfois comme étant du Nord, en venant de la Suisse, et pourtant me voici bien dépassé par les frères et sœurs ici présents. Mais en tant que seul Suisse, on a Flora qu'on va compter comme la nôtre aussi, donc deux Suisses parmi vous. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs du Sud, même si nous avons froid aussi là-bas. Une chose que j'aimerais ajouter pour me présenter, c'est que je suis le fils de Brady et Stephanie Smith. Beaucoup plus de personnes les connaissent que moi. Et j'aimerais juste vous dire que je suis très honoré d'être avec vous. Mais quel sujet extraordinaire et quel sujet vaste que le fait d'être émerveillé devant ce que Dieu a fait. Et quel stress pour quelqu'un qui doit enseigner sur un sujet pareil. Et vous savez, s'il y a une chose qui fait peur à quelqu'un qui va prêcher sur l'émerveillement, c'est la crainte de vous ennuyer. Parce que si j'aurais raté quelque chose, c'est bien que vous sortiez en disant « Ouf, je suis content qu'il a fini de parler de l'émerveillement. » Et donc, j'ai un chronomètre de 40 minutes et je m'asseyerai au bout de 40 minutes où nous soyons arrivés. Peut-être que cela nous aidera un peu. Mais lorsque nous parlons d'être émerveillé, comment définir quelque chose que nous connaissons tous, que nous avons tous vécu, mais que nous avons de la peine à vraiment définir dans des mots? Il faut le vivre. Et j'aurais pu aller regarder dans le Larousse ou le Robert pour trouver une définition, mais j'ai décidé plutôt de parler de quelques éléments du vécu. Lorsque nous sommes émerveillés, qu'est-ce qui se passe en nous? Et voici non pas une description systématique de l'émerveillement, mais quelques pensées sur l'expérience d'être émerveillé. Vous savez, c'est d'abord une émotion. Et j'aime tout ce qui est analytique, j'aime tout ce qui est intellectuel. Mais l'émerveillement, c'est là où l'intellect et l'émotion travaillent ensemble et nous transforment. Et nous vivons dans l'émerveillement une émotion puissante et immense. C'est être confronté à la beauté ou la puissance qui nous dépasse. L'émerveillement, c'est de voir quelque chose ou de contempler quelque chose de si extraordinaire. L'émotion, c'est aussi le être émerveillé, c'est aussi un mystère qui est devant nous, des choses qui dépassent ce que nous comprenons. Mais l'émerveillement, ce n'est pas juste avoir la tête dans les nuages. Mais l'émerveillement, c'est d'être dépassé par une réalité plus grande que nous-mêmes. Lorsque nous sommes émerveillés, nous sommes en face de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Lorsque nous sommes émerveillé, ou en tout cas lorsque je suis émerveillé, je vis pleinement dans le présent. Être émerveillé, c'est être à 100% dans le présent, dans l'instant et face à ce qui est devant nous, face à cette réalité. Et être émerveillé, c'est l'expérience la plus anti-égoïste qu'on puisse avoir. Parce que nous ne sommes, même lorsque nous sommes émerveillés par nos propres corps, nous sommes émerveillés par quelque chose d'autre. Lorsque nous sommes émerveillés, nous contemplons, nous regardons, nous comprenons au-delà de nous-mêmes. Et donc c'est une bonne discipline à avoir. Et finalement, lorsque nous sommes émerveillés, nous ressentons une joie profonde. Cette émotion que nous retrouvons dans ce qui est le plus profond et le plus désiré par nous, cette joie de la vie. Et donc voilà un peu ce que moi je ressens, ce que moi je vis dans l'émerveillement. Et Pierre nous a déjà parlé de pourquoi cela vaut la peine de parler d'émerveillement, en parlant de ce témoignage des Écritures. Mais vous savez, l'émerveillement fait partie fondamentale du message biblique. C'est une partie intégrale de ce que c'est que la parole de Dieu, c'est de témoigner de cet émerveillement. Et juste pour vous rappeler quelques versets que nous avons déjà entendus, les paroles dans Chronique, c'est 1 Chronique chapitre 16, verset 9. J'ai eu 11 chroniques, ça n'existe pas, donc ne croyez pas. Mais chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Parlez de toutes ces merveilles. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Le psaume 40, verset 6. Tu as multiplié éternellement, Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Voilà ce que nous voyons dans l'émerveillement. Et le psaume 89, verset 6. Voici ce que nous lisons. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, particulièrement dans les psaumes, sur la 70 de fois ou la 70, je ne sais pas comment vous dites en France, mais la septantaine de fois que le mot merveille est utilisé dans l'Ancien Testament, presque la moitié sont dans les psaumes de louange à Dieu. Et sans arrêt, lorsque nous lisons les Écritures, c'est l'émerveillement face à ce que Dieu a fait. Et nous l'avons entendu, n'est-ce pas, dans nos chants, les chants que nous avons chantés. Il est si merveilleux, et tous ces autres chants. Le numéro 11 dans le livre rouge, c'est mon préféré. Tout ce monde appartient à mon bien-aimé Père. Et une histoire qui dit, ce monde est merveilleux. Ce chant aux merveilleuses histoires, où nous parlons de ce que Dieu a fait en Christ Jésus. Et le chant si magnifique que nous avons chanté au début. Il est si merveilleux. Mais l'état d'âme, d'émerveillement, fait partie intégrante de ce que c'est que d'être chrétien. Est-ce que nous pouvons vraiment nous appeler des chrétiens si nous ne connaissons pas l'émerveillement, si nous ne sommes jamais émerveillés par ce que Dieu fait? Le fait est, en tant que chrétiens, nous vivons face à une réalité plus grande que nous-mêmes. Nous sommes confrontés à la joie ultime de l'existence. Et nous sommes confrontés à une puissance, à une beauté qui nous dépasse. Et le fait est que nous avons ce devoir de réagir avec émerveillement face à cela. Et nous vivons dans un monde et dans une création qui nous appelle à être émerveillés. Et comme Pierre a de nouveau dit, il a vraiment un peu fait mon introduction, donc je vais assez rapidement comme ça. Ah, l'émerveillement, c'est quelque chose que nous avons tous connu, mais que nous avons tous tendance à perdre dans la vie. Et la question pour nous, c'est aussi qu'est-ce que nous allons faire pour retrouver ce qui nous est si familier, mais ce qui est si dur à atteindre plus la vie progresse. Nous avons besoin de retrouver l'émerveillement dans nos vies. Et donc, nous allons parler cet après-midi des obstacles à l'émerveillement, mais nous parlerons aussi de certaines réponses dans la vie que nous pouvons avoir pour retrouver l'émerveillement de ce que Dieu a fait. Donc, commençons. Émerveillé par sa création. Ou comment reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous savez, notre point de départ pour l'émerveillement face à la création autour de nous, c'est le récit de la création. Genèse chapitre 1. Et dans Genèse 1, 31, nous lisons le constat de Dieu après avoir fait toute la terre et tout l'univers entier. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ce n'est pas nous qui regardons l'univers et nous disons cela est très bon. Mais Dieu, le créateur de l'univers, qui regarde ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, et qui dit cela est très bon. Nous pouvons nous émerveiller devant la création parce que tout ce que Dieu a fait est très bon. Est-ce que vous croyez en cela vraiment? Que Dieu a fait des choses très bonnes, et pas seulement un peu, mais tout est très bon. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons, une création déclarée par Dieu lui-même être très bonne. Et donc nous lisons dans les Écritures ce témoignage d'hommes et de femmes poussés par l'Esprit qui disent que Dieu a fait une création merveilleuse. De nouveau, regardons quelques textes. Le psaume 89, les versets 6 à 10. Lire un peu plus lent de ce qu'on a vu avant. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées. Et quand on dit Dieu des armées, on parle de l'armée céleste, toutes ces étoiles dans le ciel, toutes les puissances du monde. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Et nous trouvons dans le psaume 89, ce témoignage, c'est que Dieu est merveilleux parce qu'il est le créateur de tout ce qui nous entoure. Et lorsque nous regardons la puissance des mers, lorsque nous regardons le ciel, nous voyons que nous servons un Dieu qui est merveilleux. Et la création témoigne de ces merveilles de Dieu. Mais vous savez, nous perdons cet émerveillement au fil des années. Et un de mes auteurs préférés, G.K. Chesterton, qui était un philosophe et journaliste anglais au début du XXe siècle, fait cette observation très pertinente au sujet de l'enfant et de l'adulte. Et il nous rappelle que l'enfant a une capacité incroyable et intarissable à s'émerveiller devant le monde autour de lui, mais que l'adulte a de la peine avec cela. Et nous voyons ça autour de nous. Voici un écureuil. Ma femme a travaillé, avant de m'épouser, de venir en Suisse, comme enseignante de maternelle. Et elle me parlait des expériences dans la cour de récréation. Et il y avait des arbres qui étaient au-dessus de la cour. Elle disait, chaque fois qu'un écureuil passait sur un arbre, tous les enfants criaient « Écureuil !» et couraient pour voir cet écureuil qui courait et sautait de branche en branche. Et même s'il y avait un ou deux ou trois écureuils par jour, pendant des années et des années, les enfants n'arrêtaient pas de courir, de tout lâcher, pour s'émerveiller devant un écureuil qui saute de branche en branche. Comment est-ce possible de s'émerveiller autant à ce point-là pour des écureuils qu'on voit tous les jours? Mais l'enfant sait qu'il y a quelque chose de merveilleux dans un écureuil qui saute de branche en branche, même s'il y aura un autre écureuil demain. Pour moi, j'étais étudiant universitaire à l'époque, moi j'étais plus amusé, une fois lorsque j'étudiais, je lisais sous un arbre, et puis je vois un écureuil tomber, pff, comme ça, juste en face de moi, se relever un peu comme ça, et essayer de grimper l'arbre de nouveau. Moi je trouvais ça assez, pas merveilleux, mais rigolo. Mais un enfant voit ça et dit, mais que c'est extraordinaire de voir un écureuil qui peut se déplacer dans les arbres. Vous savez, un enfant vit avec des soucis comme nous. Bien sûr, nous regardons les enfants et nous disons, leurs soucis ne sont pas si grands que ça, n'est-ce pas ? Mais pour eux, leurs soucis ont la taille de leur vie entière, comme pour nous. Ils vivent avec des craintes qui nous semblent assez petites, mais qui pour eux sont des craintes immenses. Ils vivent avec des tristesses qui nous semblent négligeables, mais pour eux, c'est la vie entière. Mais il y a une chose qui les différencie, et ce n'est pas la crainte, pas les soucis, pas la tristesse. C'est qu'ils n'ont pas encore oublié comment s'émerveiller devant le monde. Lorsqu'on entre dans l'avion, il y a deux choix qu'on aime faire. Soit à côté de la fenêtre, soit à côté du couloir. On ne veut jamais être coincé entre deux chaînes. Les adultes choisiront le couloir pour aller aux toilettes. Mais les enfants choisiront la fenêtre pour voir le monde qui est dehors. Nous voulons être comme cela. Chesterton dit ceci dans son livre « Orthodoxie ». Lorsque nous étions de très petits enfants, nous n'avions pas besoin qu'on nous raconte des écrits fantastiques. Nous n'avions pas besoin de... nous avions que besoin de récits. La vie en elle-même était suffisamment intéressante. Un enfant de 7 ans s'excite lorsqu'on lui dit que Thomas ouvrit une porte et trouva un dragon. Mais un enfant de 3 ans s'excite lorsqu'on lui dit que Thomas ouvrit une porte. Nous cherchons à être émerveillés par ce que Dieu a créé. Et qu'est-ce qui nous empêche donc de s'émerveiller dans la vie? Et juste quelques obstacles qu'on peut voir. Le premier, c'est la répétition. C'est de voir la même chose jour après jour après jour. Et au bout d'un moment, ce sentiment d'être émerveillé s'estompe. C.S. Lewis, dans son livre « Les tactiques du diable », fait dire à l'enseignant démon qui enseigne à son élève comment tenter un jeune chrétien. Voici ce que dit le démon dans cette histoire. « Cette aversion pour toujours les mêmes choses est l'une des passions les plus utiles que nous ayons produites dans le cœur humain. » Que c'est l'œuvre du diable lui-même, cette aversion pour toujours la même chose. Et cette répétition dans la vie, de voir toujours la même chose, est-ce que cela tue notre émerveillement face au monde? Maintenant, de nouveau, nous regardons les enfants. Et qui n'a jamais marché avec un enfant dans ses bras, et puis un autre adulte à côté, et de faire balancer l'enfant? Et que dira l'enfant tout de suite après? Encore. On balance encore. Et que dira l'enfant? Encore. Et encore, et encore, et encore. L'enfant ne se lasse pas de l'émerveillement, en tout cas au début. Et avec le temps, cela vient. Mais la répétition ne tue pas l'émerveillement, en tout cas pas pour ceux qui ont la pureté de l'innocence. Le péché tue l'émerveillement. Adam et Ève sont créés dans un monde parfait et dans un monde digne qui mérite qu'on s'émerveille là-dedans. Mais Adam et Ève ont péché et se retrouvent chassés du jardin. Et lorsque le péché entre dans la vie d'Adam et Ève, et lorsque le péché entre dans le cœur humain, l'émerveillement s'estompe. Et ce qui est censé nous procurer un bonheur ineffable, inexprimable, devient ce qui est banal et même dégoûtant. Il y a 2 semaines, dans les nouvelles aux États-Unis, il y a une histoire qui a fait tous les blogs, soit chrétiens, athées, philosophes, sociologues, tout le monde. Playboy a fait une annonce, et je ne vais, vais pas aller relire les Playboy pour ça, mais Playboy a fait une annonce, nous ne ferons plus de photos de nus intégrales, plus de femmes entièrement nues dans notre magazine. Bon, pourquoi? Parce que les gens ne sont plus émerveillés même par cela. Dieu qui crée la sexualité humaine, une chose si merveilleuse pour nous, et des gens qui en profitent et qui en font un bien de consommation, et qui le prennent dans le péché pour assouvir leurs besoins de bonheur et d'émerveillement, et qui arrivent à un point où on dit « on n'en peut plus ». Il y a trop de femmes nues dans notre société. Cela ne touche même plus l'imagination des gens. On va devoir recouvrir les femmes pour donner un peu plus d'émerveillement aux gens. N'est-ce pas pathétique à quel point le péché détruit l'émerveillement dans nos cœurs? Vous savez, ce qui m'émerveille, c'est un couple marié depuis 60 ans qui s'aime toujours plus avec des amis. Mais la pornographie qui tue l'émerveillement dans ce que Dieu a voulu pour du bien. Et nous voyons que le péché tue l'émerveillement dans l'oubli. Parfois, c'est la connaissance qui tue le fait d'être émerveillé. On pense à l'enfant qui regarde un magicien faire des tours devant lui, et puis qui n'a aucune idée comment on fait le magicien. Mais l'adulte qui est derrière, qui voit la pièce cachée dans le dos du magicien. Et l'adulte n'est pas émerveillé comme l'enfant. Et quand l'enfant devient plus grand, il découvre que le Père Noël n'existe pas. Désolé. Le Père Noël n'existe pas. Les cloches ne savent pas voler. Et le magicien faisait semblant et tu t'es fait berner. Et est-ce que la connaissance peut tuer l'émerveillement? Bon, oui, mais dans seulement un cas. Et c'est l'émerveillement face aux choses qui sont fausses. Mais lorsque nous sommes émerveillés par la réalité et par la vérité, je crois que l'émerveillement continue et nous voyons une beauté et une vérité qui grandissent avec le temps. Et nous en reparlons. Parfois, il y a les déceptions, les difficultés, les réalités de la vie. Nous pouvons nous émerveiller devant la beauté de la création. Nous pouvons être émerveillés par l'amour de Dieu, par nos relations avec des personnes qui nous sont chères. Mais quand la mort entre dans nos relations, quand on perd notre travail, quand des amitiés sont brisées, quand on vit dans l'insécurité matérielle, quand on vit dans la crainte et de la guerre, est-ce qu'on commence à perdre ce sentiment d'être émerveillé? Là, non pas à cause des péchés dans nos vies, mais parce que nous vivons dans un monde qui est brisé par le péché. Et le poids des soucis, des difficultés et des horreurs de la vie commence à détruire notre émerveillement. Et nous perdons ce que Dieu a voulu pour nous, que nous soyons émerveillés. Et puis finalement, dans notre société, le divertissement, il y a le bruit. Le bruit, tout ce qui va distraire notre attention de ce qui est vraiment merveilleux. Que ce soit les loisirs, que ce soit la recherche de sensations fortes qui n'ont aucune réalité derrière, que ce soit la recherche du boulot et du succès qui nous empêche de regarder autour de nous, le bruit nous empêche d'être émerveillés. Et cela va détruire en nous tout ce que Dieu a voulu pour nous. Et on oublie de regarder. En toutes ces choses, la répétition de ce qui est merveilleux, le péché, la connaissance de ce qui nous échappait avant, les déceptions de la vie et le bruit, cela peut tuer notre émerveillement. Et nous voyons les conséquences dans notre propre vie. Mais juste en pensant à cela, et peut-être vous pensez déjà, mais qu'est-ce que je vais faire face à ces choses? J'aimerais nous inviter, pour les minutes qui restent, à simplement méditer sur ce qui est merveilleux dans notre monde, ce que Dieu a créé. J'aimerais nous inviter à nous exercer, à être émerveillés. Parce que je crois que la meilleure réponse à ces choses, c'est de s'exercer à s'émerveiller à nouveau. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, nous nous exerçons à ce qui est banal. Nous regardons les choses que nous voyons tous les jours et nous disons, nous voulons nous émerveiller par l'ordinaire, voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et dans la création, il y a énormément de directions où on pourrait aller, mais j'aimerais vous parler un peu de notre univers dans lequel nous vivons. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Je vais répéter ce verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue, c'est-à-dire tout le ciel, manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Mais leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe de sa chaleur. Voilà la description magnifique de la voûte céleste, des astres dans le ciel que fait le psalmiste, et des étoiles et du soleil qui se déplacent dans le ciel. Voici quelques images qui ont été prises par un de mes anciens camarades de classe, Jamin. Ici, on voit moins bien sur le projecteur, mais voilà, il se trouve dans un des déserts aux États-Unis. Il pose la caméra et il prend une photo et on voit l'étendue céleste. Les astres du ciel avec la Voie lactée, notre galaxie qu'on peut voir à l'œil nu en nous couchant sur le dos dans le désert aux États-Unis. Ou qui monte sur une montagne en face de chez nous et qui regarde une fois de plus vers les étoiles. Et nous voyons les lumières créées par l'homme en bas. Mais en haut, l'étendue de la voûte céleste extraordinaire qui est là. Et nous voyons un monde immense au-delà de notre terre qui est là. Une étendue si extraordinaire qui raconte la gloire de Dieu. Pour ceux qui étaient à la colo il y a peut-être 3 ou 4 ans, Philippe Demers avait partagé un peu quelque chose sur la taille de ce monde dans lequel nous vivons. Lorsque nous regardons ces étoiles, trop souvent nous ignorons qu'est-ce que nous voyons vraiment. Bon, voici une représentation de la Terre. Ça, c'est pas vraiment la Terre, nous sommes sur la Terre en ce moment. Et vous êtes quelque part par là. La Terre mesure 12 756 km de diamètre à l'équateur. C'est-à-dire 40 075 km de circonférence. Ça vous mettrait longtemps à marcher cette distance, je vous promets. Mais nous vivons sur une Terre immense, des dizaines de milliers de kilomètres. Moi, j'ai la peine à m'imaginer 10 000 de quoi que ce soit, même des centimes. Or, c'est des chiffres qui commencent à nous dépasser. Mais nous vivons sur ce globe terrestre immense. Et pourtant, voici Neptune, une des autres planètes dans notre système solaire. Le volume de Neptune, c'est 58 fois le volume de la Terre. On peut mettre 58 Terres à l'intérieur de Neptune. Neptune qui n'est même pas une des plus grosses planètes de notre système solaire. Neptune, cette grande planète. Nous disons, notre planète n'est peut-être pas si grande que cela, avec ses 40 000 km. Mais vous savez, Neptune n'est pas si grande que cela non plus. Voici Jupiter, la plus grande planète dans notre système solaire, qui a une gravité si grande que l'axe de rotation autour du Soleil n'est même pas placé dans le Soleil. C'est-à-dire, on peut mesurer l'effet de Jupiter sur le Soleil, qui le tire dans sa direction. Jupiter a un volume qui est 1321 fois celle de la Terre. On peut mettre la Terre dans le même espace occupé par Jupiter 1321 fois. Juste pour vous donner une idée, c'est des millions de kilomètres qui sont là. Mais c'est une taille qu'on a de la peine même à décrire. Et voici donc la planète la plus grande de notre système solaire. Et la Terre est si petite à côté. Et pourtant, voici Jupiter, mais voici notre Soleil. Notre Soleil qui a 1,4 million de kilomètres de diamètre. 1,4 million de kilomètres de diamètre. C'est 100 fois plus large que la Terre. C'est-à-dire, pour une conversion, si jamais on compare les diamètres de différentes sphères, et puis on fait le cube de ce diamètre pour avoir le volume qui est là. C'est-à-dire on peut mettre 1 million de terres, plus ou moins, d'accord, plus ou moins, 1 million de terres à l'intérieur du Soleil. Voici la taille de l'astre qui est décrit par le psalmiste qui se déplace dans le ciel. C'est un astre d'une puissance et d'une beauté extraordinaire. Et on n'arrive même pas à imaginer 1 million de terres, n'est-ce pas ? Et pourtant, si on regarde un peu plus loin dans notre galaxie, nous voyons Sirius. Sirius est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Et puis, vu de la Terre, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil. Deuxième étoile la plus brillante, vous pouvez la voir quand vous allez dehors et regardez. Mais c'est une étoile, c'est pas Mars, c'est pas Jupiter, mais c'est bien une des étoiles. Dépassant dans sa luminosité, Canopus et Artacus. Wikipédia est formidable pour ce genre de choses. Et elle fait partie des catégories des étoiles blanches. Et à partir de maintenant, on va mesurer les choses non plus par rapport à la Terre, mais par rapport à la taille du Soleil qui est 1 million de Terres. Elle fait 1,77 fois le rayon de la Terre. D'accord. Donc faites ça au cube et vous voyez la différence de volume. Si jamais. Et pourtant, Pollux, voici une autre étoile. Pollux est l'étoile la plus brillante de la constellation des Gémeaux et l'une des plus brillantes du ciel, dont le rayon fait 8,8 celle de notre Soleil. Voici un astre gigantesque. Et pourtant, Adèle Baran, également appelée Alpha Tauri, selon la désignation de Bayer, est l'étoile la plus brillante de toute la constellation du Taureau. Située à environ 65 années-lumière du Soleil, elle est la 14e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Donc vous pouvez la trouver, il suffit de regarder le ciel et puis compter la 14e étoile la plus brillante et vous l'aurez. Un diamètre 44,2 fois plus large que celle du Soleil. Donc 44,2 au cube, je n'ai aucune idée de ce que ça fait, mais c'est beaucoup. On peut mettre des millions de soleils là-dedans. Et pourtant, voici Betelgeuse. Bonjour, Betelgeuse. Son diamètre fait entre, il est tellement éloigné, on a de la peine à mesurer avec exactitude, entre 950 et 1200 fois le diamètre du Soleil. Entre 950 et 1200 fois le diamètre du Soleil. Vous vous souvenez d'Adèle Baran, qui était si grand avant? Et Pollux? Ah bon, Pollux n'est plus là. Pollux n'était pas digne d'un pixel. Et pourtant, YQTL, là on montre, on parle d'étoiles maintenant, et c'est à peu près, on fait une comparaison assez exacte ici. YQTL, là on montre avec 3 ou 4 astres qui ont à peu près la même taille, qui sont si éloignés qu'on a de la peine à être sûr laquelle est plus grande. Mais on estime à environ 1708 fois le diamètre du Soleil dans YQTL. Et on dit, mais c'est extraordinaire ce que Dieu a créé. Le psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par sa parole, par la parole de l'Éternel, et toute leur armée, c'est-à-dire toutes les étoiles, par le souffle de sa bouche. » Il dit une parole et toutes ces choses extraordinaires apparaissent. Alors, aimons Wikipédia, aimons aussi YouTube, je suis allé regarder pour voir si on pouvait avoir une comparaison un peu à la ligne de ces différents astres. Voici ce que j'ai trouvé, le nom de l'auteur, je crois que c'est BM440 ou quelque chose comme ça, je vous dirai au prochain pour attribuer dans un. Mais voici une comparaison à la ligne de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, avec quelques astres supplémentaires qui sont là. Donc voici la Lune, regardez, avec Mercure. On va un peu plus loin, et on arrive à Mars, toujours plus petit que la Terre, pour l'instant. Vénus, toujours plus petit que la Terre. Et enfin, vous êtes ici, plus que la Terre. Mais ça continue, avec Neptune, que nous connaissons bien, et puis aussi notre ami Saturne, mais bon, c'était entre les deux, et Jupiter, qui est plus intéressant. Mais on grandit. Voici une version 3D du Soleil, et de Sirius, aussi appelé Sirius A. Pollux. Est-ce que vous voyez toujours la Terre, d'abord? Arcturus, on l'a pas vu, mais il est sympa aussi. Adèle Baran. Ça grandit. Ça, en français, c'est l'étoile du pistolet, qui est formidable. Intéresse A. Luciférique, qui est à peu près comme Betelgeuse, et puis finalement VY Canis Majoris, qui est un peu un des rivaux pour la première place des étoiles. On estime par contre entre 1200 fois le diamètre du Soleil jusqu'à 2000 fois, et donc avec une marge d'erreur pareille, les scientifiques aujourd'hui n'ont pas envie de dire c'est le plus grand. Mais vous voyez la différence de taille, ça commence à grandir, et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Et Dieu a créé cela par une parole de sa bouche. Les étoiles sont merveilleuses. J'aimerais vous parler d'une expérience qui a été faite avant, mais juste avant, on va juste pour vous décrire un peu. Vous savez, il y a un satellite qui tourne autour de la Terre qui s'appelle Hubble. Et puis Hubble, c'est simplement un télescope géant pour regarder l'espace plus loin que nous n'avions jamais vu. Et en 2003 et 2004, les ingénieurs de la NASA ont décidé de faire quelque chose de particulier. Ils ont pointé Hubble vers un segment de la voûte céleste qui était la plus obscure dans le ciel. Et c'était un segment qui est décrit comme ceci, donc le segment XDF, donc Extreme Depth Field. Ils l'ont fait d'abord avec l'Ultra Depth Field et puis ensuite le Extreme indiqué là. Donc voici la taille de la zone qui a été mesurée. Pour vous faire une idée à quoi ça correspond, si vous avez un stylo et puis une feuille de papier, dessinez un carré de 1 mm carré, et tenez-le à 1 mètre de votre œil. Ça, c'est la taille relative, lorsque vous regardez le ciel, du segment qui a été mesuré. Une autre manière de dire, c'est 1/13 millionième du ciel qui entoure la Terre. On a 13 millions de ces petits carrés qui, ensemble, forment toute la voûte céleste. Et ils ont pointé là pendant 4 mois. Pendant 4 mois, nous avons ce télescope qui regarde et qui mesure et qui prend des images. Et au bout de 4 mois, voici ce qu'ils ont trouvé dans ce petit segment obscur du ciel au-dessus de nous. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez là, c'est un amas d'environ 10 000 galaxies. 10 000 galaxies. On estime qu'il y a environ 100 milliards d'étoiles par galaxie. Et en regardant ce segment minuscule du ciel, ce segment obscur, au bout de 4 mois, ils ont commencé à regarder, et émerveillés, ils ont dit, il y a une dizaine de milliers de galaxies dans ce ciel qui est autour de nous. Chacun qui contient des dizaines et des dizaines de milliards d'étoiles, qui chacun ont des étoiles aussi grandes que celles que nous avons vues. Les cieux ont été faits par les paroles de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 100 milliards d'étoiles dans le ciel que nous pouvons voir, et qui sait ce qu'il y a au-delà de ça? Notre Dieu a créé toutes ces choses. Voilà la merveille de la création des dieux. Les psaumes nous parlent donc de cette beauté de ce que Dieu a créé, de ces astres, mais ils nous appellent aussi à regarder ici, autour de nous. Et on a entendu de nouveau cette méditation qui nous rappelle ces passages si importants, mais du psaume 139. Ce psaume 139 qui nous invite à regarder ici, nos propres corps et ceux autour de nous. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits des jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille, je suis encore avec toi. Et les paroles aussi du psaume 8, qui est là, désolé pour mes notes. Okay. Voici ce qu'il dit au sujet, j'avais une mauvaise mot. Voici ce qu'il dit au sujet de cet être humain qui est créé à côté de la création de Dieu, des astres. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Mais tu l'as fait pour de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. La création, la voûte céleste, a un univers immense, mais l'être humain a une gloire plus grande que celle-ci. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et donc nous nous émerveillons devant la grandeur de la création. Et nous nous émerveillons devant l'humain créé à l'image de Dieu. Et bien sûr, j'avais montré des photos de Dieu. Mais Mariana a 4 mois et demi. Mais j'ai pu être émerveillé d'être un père et de tenir dans mes bras un être humain créé à l'image de Dieu, mais comme nous dit aussi Genèse 4, créé à mon image. L'image de l'humain, mais l'image divine. Et nous pouvons voir dans nos familles et à côté de nous des êtres humains qui ont une gloire qui proclame la magnificence de Dieu. Et nous voyons ces petits êtres si magiques, si magnifiques, et nous sommes émerveillés. Même quand ils vomissent, ils font caca partout. Je suis papa, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est des êtres merveilleux. Et Dieu dit, je connaissais dès le sein de ta mère. C'est moi qui t'ai formé. C'est moi qui ai créé cet esprit, cette âme, cette sensibilité, ce désir que tu as créé, comme nous avons vu dans le psaume 139. Et donc, je regarde à tout. Je suis émerveillé que Dieu a créé une telle matière. Je vois la création gigantesque des étoiles, des astres. Je vois aussi ce qui est merveilleux dans la création. Et Mariana grandit. Elle découvre des choses autour d'elle. Et elle est émerveillée par ce qu'elle voit. Mais je suis émerveillé en voyant quand elle prend des choses dans ses doigts pour les regarder. Quand elle commence à suivre du regard pour la première fois, on est là, oh, c'est extraordinaire. Quand elle tourne la tête pour nous sourire lorsqu'on lui parle, elle dit que c'est une créature merveilleuse que Dieu a faite. Et chacun d'entre nous, nous sommes des créatures merveilleuses aux yeux de Dieu. Et donc, les enfants grandissent, ils deviennent plus intelligents, et on espère qu'ils vont pas perdre ce sens d'émerveillement. Et qu'est-ce qui nous émerveille dans la vie? Qu'est-ce qui nous émerveille? J'ai parlé d'un univers gigantesque qui nous dépasse, d'une vie si fragile mais si belle qui est devant nous. Mais nous sommes émerveillés devant la beauté, l'esthétique dans la vie. Vous savez, l'univers n'est pas obligé d'être magnifique. Un coucher de soleil n'est pas obligé d'être si beau. Pourtant, Dieu nous a donné un monde si beau, si ravissant. C'est parfois les complexités de l'univers. On peut regarder très grand et être émerveillé, mais on peut regarder à l'infiniment petit et être émerveillé. On regarde les cellules et on trouve des créations si compliquées, et si équilibrées et si extraordinaires. Il y a dans les mystères de ce monde bien des choses que nous comprenons seulement pour découvrir qu'il y avait plus de choses que nous ne comprenons pas. On commence à cerner la compréhension de la matière. Et on découvre que la majorité de l'univers n'est même pas matière. Mais c'est antimatière et matière noire. Et on n'a aucune idée de ce que c'est. On pense comprendre les concepts de distance et de temps. Et on découvre que ces choses n'existent même plus dans notre pensée telle qu'elle devrait l'être lorsqu'on devient infiniment grand ou infiniment petit. Et on dit notre monde est merveilleux et mystérieux et complexe et beau et magnifique. Et voici la création dans laquelle nous nous trouvons. Et nous pouvons donc chanter à Dieu que tu es merveilleux dans ta création. Et qu'est-ce qui nous émerveille? Une bonne question à se poser. Vous savez, l'émerveillement devant la création est tout à fait approprié pour un chrétien. Être émerveillé devant la création de Dieu est tout à fait biblique et tout à fait désirable. Et nous devons apprendre à avoir cela dans notre vie. Mais il ne faut pas non plus se dire que l'émerveillement devant la création est limité à nous. Tout être humain est appelé par Dieu à s'émerveiller devant la création. Et les païens et les athées s'émerveillent devant la création aussi. Et nous affirmons ce besoin de s'émerveiller devant ce que Dieu a créé. Mais il ne faut pas que notre compréhension de l'émerveillement s'arrête là. Il ne faut pas que notre théologie du merveilleux s'arrête à la création. Car le païen, au temps de Paul, au temps de Jésus, s'émerveillait devant la création. Et aujourd'hui, l'athée s'émerveille devant la création aussi. Mais le païen s'émerveille sans connaissance. Voilà le témoignage du Nouveau Testament. Paul, quand il parle du monde sans Dieu, du monde païen, il dit « Ce sont des gens qui voient la création, qui adorent, mais qui adorent sans connaissance. » Et l'athée s'émerveille. Il s'émerveille vraiment. Il le fait sans reconnaissance. Un émerveillement authentique qu'il a. Un sentiment réel de quelque chose de réel. Mais personne à qui dire merci. Le païen vit dans un monde merveilleux et donc adore le monde qui est merveilleux et rate la connaissance de Dieu. Et l'athée voit un monde merveilleux et apprécie un monde merveilleux, mais il n'y a personne derrière cela. La merveille de la création et de l'univers, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Vous savez, on peut lire des livres et des récits écrits par des athées scientifiques convaincus. Et vous aurez de la peine à trouver des descriptions plus merveilleuses de la création. Un amour plus profond de ce que Dieu a fait. Mais pourtant, à la fin, la conclusion, c'est celle-ci. Nos cerveaux nous ont donné, par accident, ce cadeau d'apprécier l'univers. Alors, apprécions-le. Voilà. Parce que les merveilles de la création n'appellent à aucune réalité plus grande que celle-là. C'est simplement un tour agréable que joue notre cerveau. Le philosophe et mathématicien Bertrand Russell a écrit que lorsqu'il était jeune, il aimait marcher sur un chemin. Et pendant qu'il le faisait, il contemplait le suicide pour lui-même. Il a dit « La seule raison que je ne suis pas passé à l'acte, c'est parce qu'il me restait des choses à découvrir dans les mathématiques. » Et on rigole, parce que qui pourrait ne pas se suicider pour les mathématiques? Mais il avait compris que Dieu avait, qu'il y avait quelque chose de merveilleux dans le rationnel, dans l'organisé, dans les mathématiques qui correspondent à la réalité. Et il y avait quelque chose de merveilleux. Et c'était le merveilleux qui l'empêchait d'aller jusqu'au bout de sa raison. Puis il disait, ce monde n'a aucun sens, autant se tuer. Bon, est-ce que nous vivons un émerveillement sans connaissance? Est-ce que nous vivons un émerveillement sans reconnaissance, sans personne à qui dire merci? Ne nous arrêtons pas à l'émerveillement devant la création. Et donc, à qui pouvons-nous dire merci? Mais on en parlera plus tard.
Merci Justin pour leur douceur, parce que tu nous as fait.